Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quel est le véritable point de départ. Un qui est mort déjà depuis un certain temps avait écrit un très beau livre au point de départ de la métaphysique. Et déjà, le besoin de ne pas suivre la mystique thomiste habituelle donnée. Alors je dis la scolastique thomiste habituelle, c'est celle de Suarez et beaucoup de grands thomistes comme Jean de Saint-Thomas qui essaient à partir de saint Thomas théologien découvrir la philosophie dont il se sert. L'erreur, elle est facile à comprendre, mais on a mis très longtemps avant de la comprendre. Saint Thomas lui-même dit que la philosophie est une sagesse, que la théologie est une sagesse. Et il précise que le propre du sage, c'est d'ordonner. Le propre du sage, c'est de préciser son point de départ et son terme, et les différents moments intermédiaires, les diverses déviations. Puisque le propre de la sagesse implique une vision réflexe et critique. Or, vous comprenez bien que l'ordre de la sagesse théologique n'est pas le même que l'ordre de la philosophie. C'est très facile à comprendre. C'est que la théologie commence par la foi. Progresse en regardant l'ordre des différents mystères que la révélation nous donne, nous communique. On commence par le Dieu 1, on regarde ensuite le Dieu Trine, on regarde ensuite le mystère de la création, et ainsi de suite. C'est un ordre qui vient de la révélation. Le philosophe ne part pas de la foi. Il part de l'expérience humaine. Aristote l'avait dit clairement que le propre de la philosophie, c'est de partir de l'expérience. Malgré cette affirmation d'Aristote, on commençait de façon habituelle la philosophie par la logique, puis la philosophie de la nature. J'ai encore connu ça, donc j'ai subi cela. C'est pour ça que je dis que je sais ce qu'on faisait en 1930, et dans un lieu très intelligent qui était le Sojourn. Vous recevez de fait une excellente formation. J'en suis témoin, voyez, oui. Si je vous dis, je renie rien du tout de cette formation. Vous voyez la philosophie première, la philosophie de la nature, puis la philosophie du vivant, puis la métaphysique, puis l'éthique et la politique, quand on avait le temps. On n'avait jamais le temps. Personnellement, je dis ça, je suis obligé de le dire, parce que je ne peux pas dire que j'ai suivi quelqu'un. Au terme de mes études, on m'a demandé d'enseigner la philosophie. Et entre deux, en commençant la théologie, il y avait les voies d'accès au problème de Dieu qui sont dans la seule théologie de saint Thomas. Question 2. C'est bien le début. La question 1 dit qu'est-ce que c'est que la théologie ? Et la question 2 traite des voies d'accès via l'élection de Dieu. En posant la question, est-ce que l'élection de Dieu est évidente ? Je me souviens très bien avoir suivi le cours que le professeur me donnait, comme il vit encore, je ne le nomme pas. Et j'avoue n'avoir rien compris. J'étais lui poser des questions. Il m'a dit, je ne peux pas répondre, je vous dis ce que saint Thomas donne. Alors j'ai répondu, un professeur doit savoir expliquer et, s'il est d'accord, justifier le texte qu'il commente. Répéter le texte, c'est pas suffisant. Il était très gêné, il m'a dit je m'excuse. Je sais que c'est pas commode, c'est très difficile. Je dis oui, c'est très difficile. À ce moment-là, je me suis dit, il n'y a qu'à revenir à Aristote, que saint Thomas considère comme le philosophe, qui me permettra de comprendre ce que saint Thomas nous dit au début de sa somme. Et je me suis seul, tout en faisant des théologies, je faisais de la philosophie. Ça m'aiguisait l'esprit. Petit à petit, j'ai compris ce que saint Thomas voulait dire. Parce que ça me semblait très important. Si vous regardez le nombre d'études qu'il y a sur les voies d'accès à l'existence de Dieu, comme m'entend saint Thomas, c'est énorme. Et aucune à mon dire, n'a repris vraiment le problème. Vous savez, on répète dans une école. C'est le propre d'une école, c'est de répéter. Pour saint Thomas, l'autorité en théologie est une autorité divine. En philosophie, saint Thomas dit, l'autorité, c'est la dernière des raisons. Il faut qu'on puisse, à partir de l'expérience, montrer comment on découvre les principes, on découvre les propriétés, et on avance dans ce que représente la philosophie. Étudier Aristote vous rend extrêmement exigeant. Quelqu'un comme Hegel, on ne peut pas dire qu'il en a priori, dit que le seul philosophe qui forme, c'est Aristote. Il dit Platon est admirable, mais ne forme pas. Là, je suis tout à fait d'accord avec Hegel. Comme c'est le point de départ, c'est intéressant. C'est intéressant de se rappeler ça. Heidegger, qui n'est pas aristotélicien, c'est Aristote qui a été le plus loin dans la recherche philosophique, avec la découverte de l'entelechia, c'est-à-dire l'être en acte. Je pourrais vous donner des tas de témoignages. Seulement, Descartes dit explicitement qu'il tourne le dos à Aristote. Intéressant. Pour Aristote, la première question qui se pose, ceci existe-t-il ? La seconde question, qu'est-ce que ça signifie ? Pour Descartes, Première question, qu'est-ce que ça signifie? Les idées. Les idées innées. Les idées qu'on porte en soi. Seconde question, est-ce que cela existe? Donc, tout part de l'intentionnalité et de la signification de l'intentionnalité. Alors que pour Aristote, le point de départ, c'est la réalité qui existe. L'expérience. Et c'est pour cela que, personnellement, je ne pouvais plus faire autrement que de voir quelles sont nos grandes expériences humaines et comprendre que la philosophie a diverses parties en fonction de ces grandes expériences humaines. Première grande expérience humaine, le travail. Je crois. Comme on a boudé pour commencer à travailler, on aimait mieux jouer. Je crois que tout le monde est comme ça. Ça a un peu de sang dans les veines. On aime mieux jouer, quoi. C'est plus intéressant. Travailler, c'est jamais drôle. On sait bien travailler. Sans savoir très bien pourquoi. Parce qu'on devait le faire. Parce que si on ne faisait pas, on se faisait gronder. On a travaillé par autorité, donc c'était pas du tout philosophique, c'était dans une bonne éducation chrétienne. On a travaillé parce qu'on devait travailler, parce qu'il fallait obéir à nos parents, parce qu'il fallait obéir à des professeurs. Je crois que la première grande expérience humaine, c'est le travail, à tous les niveaux du travail. On essaie de faire une philosophie de l'activité artistique. Seconde grande expérience humaine, l'amour d'amitié, qui est l'expérience complémentaire, tout à fait différente. L'expérience de l'amour d'amitié est source de joie, tandis que le travail n'est pas source. Il faut avoir beaucoup travaillé pour que le travail soit une source de joie. C'est une source de joie de faire une conférence. Parce qu'on a beaucoup travaillé. Si on n'avait pas beaucoup travaillé, une conférence demanderait beaucoup, beaucoup de labeur. Mais si on a beaucoup travaillé, c'est merveilleux. Parce que dès qu'on communique quelque chose à quelqu'un qui vous écoute, on veut coopérer, et on coopère. L'auditoire joue par rapport à un enseignement philosophique, bien plus qu'il le croit. Quand vous avez devant vous un auditoire qui dort, ou qui n'écoute pas, alors on doit être le pion. Alors, on regarde, on ne pense plus. Quand on a un auditoire qui vous écoute, on est porté par l'auditoire. Et l'auditoire vous aide à aller plus loin. Il y a cette fameuse histoire qu'on raconte, vous savez, de Sartre, qui faisait une conférence, il y avait un grand nombre, 200 personnes qui l'écoutaient. Puis comme il n'avait pas la montre devant lui, il n'avait pas le sens de l'heure, ça continuait. Alors, dans le fond, on partait, petit pas, puis progressivement, petit pas. Alors, la question s'est posée pour le dernier. Dois-je avertir Sartre qu'il n'y a plus personne? Ou dois-je partir tout doucement, sans faire de bruit? Il s'est dit, c'est pas très poli. Parce que tout d'un coup, il parlait des yeux fermés, très pris par ce qu'il disait, sans faire attention à son auditoire. C'est pas réaliste. C'est évident. Oh, réaliste. C'est comme si un menuisier continuait de raconter indéfiniment. Et après, le bois lui raconter, c'était le neuf sur lequel il était. Et vous avez un certain temps, c'était fabuleux. Sur une matière qu'on regarde. Et si, de fait, donner un cours, c'est d'ordre artistique, éveiller les intelligences, il faut qu'on s'aperçoive bien ce guillotin. On crie un peu plus fort, par politesse et par gentillesse, pour les réveiller, quoi, tout simplement. On dit, écoutez, le pays, votre voisin, ou votre voisine, non. On est miséricordieux. Et si c'est trop difficile, on regarde de l'autre côté. Parce que ça n'inspire pas beaucoup de parler devant quelqu'un qui dort, moi, personnellement. Donc, peut-être. Il y a donc la philosophie du travail, la philosophie de l'amour d'amitié, la philosophie de l'art, la philosophie éthique, puis la politique. On commence par les grandes expériences de l'homme. Le travail, l'amour d'amitié et la responsabilité. Quand on aime vraiment quelqu'un, la responsabilité commence à naître. De façon profonde, c'est tout le développement de l'éthique. La politique. La philosophie la plus proche de nous, c'est la philosophie pratique. Alors que dans la scolastique, le bon père Garry le disait, la philosophie pratique était l'application de ce que la philosophie théorétique, spéculative, avait découvert. Alors il y a on oubliait que l'ordre pratique n'est pas le même que l'ordre spéculatif. Et cela arrêté, parce que c'était une terrible confusion. Et qui provenait du fait que, à partir de la théologie de saint Thomas, on regardait toute la philosophie et toute la philosophie première dont il se servait. Et on l'appliquait au domaine humain, pratique, de l'agir et du faire, et du politique. C'était pas réel du tout. Si on veut une philosophie qui commence de l'expérience, on parle de l'expérience la plus comme naturelle à l'homme. C'est le travail. Et là, je rejoins les psychologues qui disent que c'est le travail qui éduque. Et un homme qui ne travaille plus, on ne peut plus l'éduquer. C'est terrible, on ne peut plus. Il n'y a plus de prise. Il faut travailler, au moins faire la cuisine. Pas prendre trop vite hein, tout ce qui est des conserves. Alors là, je pourrais faire une excellente cuisine. C'est plus de réchauffer, quoi. C'est tout. C'est vraiment la cuisine, c'est un art. Il est excellent. Ça vous met dans un certain réalisme. On part de l'expérience la plus comme naturelle à l'homme, le travail, puis l'amour d'amitié, qui est encore plus comme naturel, avec l'esprit. Le travail, c'est l'esprit incarné dans un corps. Les anges ne travaillent pas. Dieu ne travaille pas. Il est content. Et l'amour d'amitié, c'est l'esprit et le cœur et l'intelligence. Et puis ensuite, on arrive à la philosophie qui cherche la vérité pour elle-même. La philosophie spéculative. L'expérience de la matière, l'expérience du vivant. On a donc cinq grandes expériences qui, pour moi, sont le fondement de toute la philosophie auquel il faut parvenir. Le travail, l'amour d'amitié, la communauté avec qui on travaille, la solidarité. Puis, qu'est-ce que c'est que notre corps, partie de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le vivant que nous sommes? Et nous sommes le vivant le plus parfait qui soit. Ayez l'expérience avec toi et d'autres vivants. Pas avec des hommes et avec les animaux. Voyez que l'homme est le vivant par excellence. Vous avez cinq grandes expériences, diverses. Et vous vous posez la question, y a-t-il quelque chose de commun à l'égard de toutes ces expériences? Et vous dites oui. Parce que vous expérimentez toutes, toujours, quelque chose qui existe. Quand je travaille, je ne me pose pas beaucoup la question, est-ce que j'existe? Je peux me poser la question, est-ce que je suis bien éveillé? Ça peut encore arriver. Mais est-ce que j'existe? Ça ne se pose pas la question. C'est bien que j'existe. Mais pourtant, c'est une question. On dit que Raïssa, l'épouse de Jacques, Maritain, a eu l'intuition de l'être. Quand elle voyait le petit Minet, le petit chat, il était devant elle, il s'amusait avec une bobine de laine. Et Raïssa, elle était en train de tricoter. Lui s'amusait et elle travaillait. C'est différent. Le chat ne travaille pas beaucoup, il s'amuse tout le temps. C'est l'animal qui s'amuse le plus. Il s'amuse merveilleusement, un chat. C'est extraordinaire. Puis tout d'un coup, j'ai dit, il existe. Et moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Alors, elle dit, j'ai eu l'intuition de l'être à ce moment-là. En réalité, ce n'est pas l'intuition de l'être. C'est de sentir qu'il y a une relation à l'égard de l'être différente du chat et de Raïssa. Il y a une différence. Ce n'est pas la même relation à l'être. Aristote a cette très belle formule, pas par rapport à Raïssa, mais par rapport au cheval et par rapport à l'homme. Je lis le dialogue entre Aristote et le chat, et le dialogue entre Aristote et le cheval. On voit très bien la Grèce et la France, hein. Aristote dit l'être à l'homme, l'être au cheval. C'est vrai, le cheval existe, Aristote a existé. Et donc, il y a deux relations différentes, puisque l'exister à l'homme n'est pas l'exister au cheval. Et pourtant, il y a quelque chose de commun. L'un et l'autre existent. Il y a donc là une intuition d'une relation fondamentale qui va m'aider à me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez comment ce que Aristote appelle intuition de l'être, je crois devoir dire que c'est l'intuition de deux relations, de deux réalités diverses existantes. Et on saisit le quelque chose de commun. Et on peut alors, à ce moment-là, avoir une certaine intuition de ce quelque chose de commun. Mais au fond, en réalité, ce n'est pas directement l'être, c'est l'être dans sa relation c'est intéressant de voir ça, de voir comment on pose la question. À partir de là, même avant cela, c'est pas nécessaire de passer par cette expérience-là, par cette intuition-là. Je réfléchis tout simplement que quand je travaille, je suis tel homme travaillant. J'existe travaillant. Et j'ai l'expérience du travail à partir de moi-même. Cogito, je pense, travaillant. Pas cogito ergo sum, mais je pense, j'ai conscience que je travaille. J'ai conscience que j'aime, que j'ai choisi cet ami. J'ai conscience que je suis solidaire de tous les membres de mon pays. J'ai conscience que je suis un être dépendant de l'univers. Je dépends du chaud et du froid. J'ai l'expérience que je suis un être vivant, lié à tous les autres êtres vivants. Et donc je vois qu'à travers ces cinq expériences, il y a quelque chose de commun que je peux regarder pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun? C'est tout simplement de dire, moi, je travaille, je suis travaillant. C'est donc le jugement d'existence, je suis travaillant, je suis aimant, je suis solidaire, je suis ayant un corps, partie de l'univers. Je suis un vivant. Je suis. Quand nous pouvons tous comprendre là, qu'au fond, il y a une trans-expérience, une méta-expérience, que je ne dis pas tout de suite, et que je découvre quand je regarde ces diverses expériences, que je vois qu'elles sont diverses quant à leurs modalités et qu'elles ont toutes quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, je le découvre tout de suite en moi, j'existe. C'est quand même important de pouvoir dépasser toutes ces expériences particulières. Je suis travaillant. J'ai l'expérience que je travaille. Je suis aimant. J'ai l'expérience de l'amour. Et ainsi de suite. Je dépasse toutes ces expériences partielles pour découvrir quelque chose de fondamental, de radical, de premier par rapport à toutes ces modalités. Avant de travailler, j'existe. Avant d'aimer, j'existe. Et je vois très bien que mon amour doit se soumettre à ce jugement d'existence. Quand j'aime beaucoup quelqu'un, je voudrais qu'il ne meure pas. Au moins qu'il ne meure pas avant que je ne meure. Je vous en supplie, mon père, ne mourrez pas avant que je meure. Ah oui, oui, oui. Si vous m'aimez, vous devez faire ça. Mon amour pour mon ami, si fort qu'il soit, ne peut pas dire comme Jésus, sors Lazare. L'avantage d'être ami du Christ, vous voyez, c'est que Jésus peut dire sors. Dans sa vie, je ressuscite. tombeau. Mais l'être a été donné avant. Au-delà de la résurrection, il y a quelque chose de plus radical. C'est l'être. Et tout l'amour que j'ai pour quelqu'un ne pourra pas atteindre son être. Je respecte l'ami comme quelqu'un qui est différent de moi. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que je l'aime tant. Parce que ce n'est pas moi. Et parce que ce n'est pas moi, je le respecte tel qu'il est. Et je ne veux pas du tout le forger à ma manière d'exister. Là, il y a des gens qui projettent comme ça toutes leurs qualités, tous leurs défauts sur leur ami. Qui mesurent l'ami à eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit, tu n'aimes pas vraiment. Parce que celui qui aime, aime l'autre tel qu'il est. Donc dans son altérité. Dans son existence propre. Quand vous voulez toujours modifier les gens à votre goût, ça prouve que vous ne les aimez pas tellement. Vous aimez beaucoup votre goût. Que vous n'aimez pas tellement l'autre. Vous voudriez qu'ils soient semblables à vous. Ah, quand je regarde dans la glace, je voudrais que mon ami soit comme ça. Pauvre ami. Réduit être le reflet de l'autre. Pour rien au monde. Être le reflet de l'autre. Alors qu'on est l'image de Dieu. Quand même mieux. Découvrir l'autre dans le jugement d'existence. Voilà le point de départ de la philosophie première. Alors vous voyez, je corrige Aristote, bien qu'il soit pour moi un maître. J'ai le droit. Et Aristote serait d'accord. Maintenant il est d'accord. J'en suis sûr. Je corrige Aristote. Je dis, toutes les parties de la philosophie qui regarde l'homme, repose sur l'expérience. Les cinq parties de la philosophie. Les trois qui forment l'anthropologie. Les deux autres qui forment la philosophie du devenir et la philosophie du vivant. Partent de l'expérience. Mais la philosophie première, qu'on appelle métaphysique, part de quelque chose qui est plus radical que l'expérience, par du jugement d'existence. C'est ce que Descartes n'a pas vu. Autrement, il n'aurait pas dit certaines choses contre Aristote. Comprenons bien. Au-delà des diverses expériences humaines, mon intelligence est capable de saisir que tous ces états particuliers dans lesquels je me trouve, travaillant, aimant, être solidaire, mon intelligence saisit l'être dans son altérité, saisit l'exister. L'exister, l'être, seule l'intelligence est capable de le saisir. Tandis que, dans l'expérience externe ou interne, les sens sont toujours là présents. Et j'allais dire, cache l'être. Vous voyez, une figure, ce n'est pas l'être. Une figure vivante, une de vos figures, quoi. Celle que je regarde le mieux. Cette figure, elle existe. C'est la figure d'un homme. Elle existe. Tant que l'homme existe. L'existence. tête, cette figure, ce n'est pas la figure. Et pourtant, l'existé de cette figure est dans la figure. Une figure vivante qui existe n'est pas la figure d'un mort. Les traits sont les mêmes pendant un certain temps. Il y a quelque chose de particulier. Ceci existe. Ceci est vivant. Voyez, au-delà de toutes les déterminations, la longueur du nez, la couleur des yeux, le front, très puissant, la bouche, et ainsi de suite, le pied, la main. Au-delà de toutes ces déterminations, il y a l'homme qui existe. Il existe. Il est l'être à l'homme. L'être au crapaud. Il existe aussi le petit crapaud. L'être au caillou. Un petit caillou. Il roche, un bout de roche. Pas un caillou fait par l'homme. Non, non, un vrai, un véritable. Au-delà de toutes les déterminations, l'intelligence saisit quelque chose. Que les philosophes ont appelé l'être. Et que dans le langage courant, on appelle l'exister. L'être. L'être à l'homme, ça a une signification que tout le monde peut comprendre. Tout le monde comprend très bien que lorsque vous allez acheter des carottes au marché, vous prenez ces carottes et vous ne dites pas à la caissière, est-ce qu'elles existent vraiment ? Faites l'essai, vous verrez. Est-ce que ces carottes on oublie l'être. Et c'est vrai, on oublie l'être tellement bien aujourd'hui. On arrive à faire des fleurs artificielles tellement belles. On dit, si les réels étaient comme ça, on arrive à dire ça. C'est Hegel qui dit ça. L'homme joue mieux la musique que le rossignol. Donc le rossignol, essaie d'imiter l'homme. Hein ? Faut être très très enfoncé dans le béton pour dire ça. Hein ? Parce que normalement c'est plutôt l'inverse. C'est le chant du rossignol qui est premier. Puis après, l'homme complète le chant du rossignol. S'il peut faire mieux, s'il peut faire quelque chose de plus qualitatif, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus prolongé, il ne se fatigue pas. Le disque, avec le rossignol, s'arrête de temps en temps. L'être, c'est l'au-delà de toutes les déterminations. Alors que toutes vos expériences s'arrêtent à telle détermination. Je travaille, j'aime, je suis solidaire, je suis un être qui se transforme, le devenir, je suis un être vivant, je suis. Alors, pourquoi ne pas commencer la philosophie première par cette expérience la plus formidable, je suis. Ça, c'est une très grave question. Vous voyez, c'était la question que s'est posée, je sais, quelqu'un comme le père Duval qui enseignait longuement à l'Institut catholique de Paris, qui dans la dernière année de son enseignement s'est posé explicitement la question devant les étudiants. Non, je ne peux pas répondre, mais je vais chercher avec vous. Il y a deux sortes de métaphysique. La métaphysique de l'être, le réalisme des anciens. Et depuis Descartes, il y a la métaphysique de l'esprit. Puis choisir métaphysique de l'esprit, métaphysique de l'être. Métaphysique de l'esprit, je suis. Cogito, ergo sum. Je ne dis pas comme Descartes. Je dis je suis, donc je peux penser. Et puis, le jugement d'existence. Toutes les réalités que je vois existent. Cette carafe, elle existe. Cette eau, elle existe. Pour en être sûr, je bois. Pour en être sûr, hein, parce qu'on arriverait peut-être à faire quelque chose de semblable, qui aurait l'immense avantage de ne pas se corrompre, n'aurait pas besoin de jamais les vider. Et puis si le conférencier a envie d'en prendre, tout le monde éclatera. Parce qu'il croira, il a cru que c'est vraiment de l'eau. Mais il est d'un autre âge. Avant, on mettait de l'eau. Mais maintenant, on n'en met plus. Parce qu'on vit uniquement pour la façade. Pas besoin. Pourquoi je commence la métaphysique par ceci et le jugement d'existence, non pas je suis. Et le père du parle. Il me l'a dit, je ne l'ai pas résolu. Je comprends très bien, philosophie européenne, enracinée dans le réalisme grec, à partir de Descartes, prenant conscience de ce qu'elle est, elle commence par le cogito. Puis, aller plus loin avec Descartes et dire, philosophie grecque, ceci est philosophie européenne, à partir de Descartes, je suis. C'est une très belle question. Il faut la poser. Alors, c'est assez simple. Quand vous dites ceci peut être vous, peut être la vache, peut être le petit chat d'Araïssa. Peut-être tout ce que vous voyez, cette table, cette chaise, ceci est. Et qu'est-ce que vous voyez alors? À la place du ceci, vous voyez, vous faites ça dans un tableau, vous mettez vache, la vache, cette vache existe. Pierre existe. Ce minet existe. Vous voyez que vous mettez toujours est relatif à ceci. Et ceci, c'est la vache, c'est le bœuf, c'est moi, c'est la table. Vous pouvez donc, en réfléchissant, isoler le est du ceci. Le distinguer. Et même l'isoler. Et se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'être? Vous passez au point de vue du langage, au point de vue de la forme grammaticale, du présent à l'infinitif. Alors tout le monde sait que la forme infinitive d'un verbe peut servir de sujet. L'être. L'exister, qu'est-ce? Vous interrogez maintenant? Oui, le merci. C'est la blancheur. C'est la source de la blancheur. C'est très curieux, ça. C'est comme celui qui allait en Amérique pour la première fois Il dit, ah, oh, j'ai rencontré la liberté. Et la statue. La liberté, elle est dans mon esprit. C'est moi qui la pense. Mais la liberté, j'ai vu un chien libre. Alors je dis, sauvage. Tiens, c'est plus sauvage qu'un libre. Et c'est bien vrai, ça, comparativement à l'animal domestique. Et quand vous arriverez à faire croire à l'homme qu'il est uniquement un animal domestique, que tout ce qu'il est, c'est conventionnel, vous ferez de l'homme un esclave. C'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il devient de plus en plus conventionnel. C'est curieux, ces choses-là. Mais c'est très actuel, vous savez. Et on n'y pense pas. On croit que la philosophie, c'est regarder la blancheur. Mais non, c'est le blanc du mur. On croit que la philosophie, c'est de regarder ce que c'est que l'être. Mais non, c'est abstrait l'être. Le bon père Mandonné, qui était un bon bourguignon et un excellent historien du Moyen-Âge, disait l'être. Je le vois quand j'ai 40 degrés de fièvre. Alors il est malade. L'être, mais où est-ce qu'il est ? N'avez jamais vu l'être. Tandis que vous touchez, ceci existe. Et en disant ceci existe, vous touchez l'être en exercice. L'être de la montre. Et quand vous donnez une bonne poignée de main à quelqu'un, vous dites, tu es. Je te sais. Tu es. Il existe. Il est. Alors voyez, c'est ça qui est très très intéressant. C'est de voir que l'intelligence interroge à partir de l'expérience. Et quand l'intelligence interroge à partir de l'expérience, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut isoler, on dit dans un langage moderne, philosophique, thématiser, tout simplement isoler, pour la peine de donner un terme, alors qu'il y en a en bon français, et présenter l'être comme un objet de pensée. Je pense l'être. Penser l'être, hein. Je dirais, un quart d'heure de silence, tout le monde va penser l'être, et va mettre sur un papier. L'être, c'est trois petits points. Dans un quart d'heure, les petits points vont augmenter. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, l'être, l'être. C'est l'intelligence qui est capable, sous un mode abstrait, passer du blanc à la blancheur. Passer de ceci et à l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est merveilleux, hein, de se poser la question qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est Parménide, le premier en philosophie grecque. Il a dit que l'être est apparu grâce à la déesse. C'est une révélation. Parce que pour lui, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il n'y a que Dieu qui peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Parce qu'il le fait. Moi, je ne le fais pas. J'existe, mais ce n'est pas moi qui ai été source de mon existence. La preuve, c'est que si j'avais été source de mon existence, j'aurais mis quand même quelques petits centimètres de plus. Ou quelqu'un de très grand, si j'avais été source de mon être, j'aurais mis quelques petits centimètres de moins. C'est la même chose pour tout. Hein. J'avais des sources de mon intelligence, j'aurais poussé un peu. J'avais des sources de mon cœur, j'aurais poussé, j'aurais agrandi mon cœur. Enfin, un cœur extraordinaire. Puis je me serais montré à tous les médecins. Voyez ce cœur. Je subis l'atavisme, je subis la création de mon âme. je la subis, ou au contraire, je dis c'est admirable, c'est merveilleux. Vous voyez, l'intelligence est capable de passer du concret à l'abstrait. Elle passe, ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est pour ça que Heidegger dit que ce qui est le plus grand en philosophie, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est pas si bête, hein. C'est même très intelligent. Mais il ne répond pas. Et il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que pour lui, ceci est cette monde existe. Et l'être que l'intelligence saisit par elle-même, c'est tout à fait différent. D'un côté, il appelle ça l'étang. De l'autre côté, l'être en soi. L'être pur. Donc, la signification de l'être pur n'est pas la même que la signification de ceci. C'est là l'erreur de Heidegger. Parce que si je réfléchis bien, je sais que quand je dis blancheur, ça vient de tous les blancs où j'ai l'expérience. Celui qui a inventé la fiche persile, la blancheur, c'est pas bête du tout. Parce qu'il sait. Tous ceux qui regarderont son affiche pour la blancheur, ils n'ont jamais vu. Donc si j'ai jamais vu la blancheur, je trouve que c'est très très blanc. Et je trouve ça merveilleux, ce lavage avec ces blancheurs. Si vous aviez vu la blancheur, même après avoir lavé une chemise, ce ne serait pas blanc. Parce que ce ne serait pas la blancheur. La blancheur, c'est tous les blancs. Oh, réunis. Condensés. Le jour où on vendra la blancheur en soi, ça ne peut pas. C'est abstrait. Alors faisons grande attention. Tout ce que nous avons d'abstrait, revient aux expériences concrètes. Donc, la signification du terme abstrait provient de l'expérience concrète. Vous voyez, c'est capital de comprendre ça. C'est pourtant très simple, mais c'est capital. Si vous mettez l'abstrait avant le concret, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Si vous mettez le concret avant l'abstrait, c'est ce qu'on appelle le réalisme en philosophie. Parce que en mathématiques, qu'est-ce qui est premier? L'abstrait, l'être mathématique. L'être mathématique a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il est abstrait et concret. C'est pour ça qu'il est rival de la métaphysique. Il est terriblement rival de la métaphysique. Il est abstrait et concret. L'équation différentielle, c'est abstrait, c'est concret. C'est pour ça que moi, je dis que c'est Dieu. Parce qu'en Dieu, abstrait et concret ne font qu'un. C'est curieux, ça. Mais est-ce que je suis un être mathématique? Les mathématiques ne sont pas une sagesse, au dire d'Aristote, parce que les mathématiques ne peuvent pas dire quelle est la finalité propre de l'homme. Les mathématiques ne disent pas ce que c'est que le bien. Les mathématiques ne disent pas ce que c'est que l'amour. Et donc, les mathématiques ne peuvent pas être une sagesse. Et donc, l'être mathématique n'est pas l'être existant moi-même. Je suis plus qu'un être mathématique. Il y a quelque chose en moi d'irréductible à l'être mathématique. C'est que j'existe. C'est que j'aime. Alors le point de départ, de la métaphysique, c'est ceci est. Avec l'interrogation qu'on verra. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Pourquoi je ne parle pas du je suis ? Ah, parce que dans le je suis, le ceci est a pris une dimension énorme. Je suis seul à pouvoir dire je suis. Vous pouvez répéter, mais votre je suis n'est pas le mien. C'est bien évident. Et on est convaincus, l'un et l'autre, que c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis convaincu que mon je suis est mieux que le convaincu de mon ami, que le je suis mon ami quand même. Je suis seul au monde. Personne ne peut me remplacer. C'est quand même beau ça. C'est quand même fort. Je suis. Vous voyez, le je absorbe l'être. Et l'être est relatif au je d'une façon telle que l'être le capte. Et je ne peux pas isoler l'être du je suis. Tellement le je suis possède quelque chose d'unique. Je ne peux pas répéter. C'est l'individu, c'est la personne. Et c'est la personne individuelle. C'est pour ça que je ne peux pas commencer la métaphysique par le je suis. Mais je peux, et nous le verrons, à partir du ceci est, rejoindre le je suis. Et toute ma métaphysique est pour que mon je suis soit plus parfait, plus intérieur, plus pur, pour que je comprenne mieux ce qu'est la personne humaine dans tout son réalisme d'individu et d'un être spirituel.